Alors, comme l'a dit Marc, effectivement, aujourd'hui, c'est une occasion où de nombreuses églises protestantes en France nous proposent la possibilité de mettre un dimanche à part pour l'Église persécutée, pour nos frères et sœurs qui, dans différents endroits du monde, eh bien, sont persécutés pour leur foi. Et cela va se passer de deux façons, enfin en deux parties. Il y aura une partie où je vais revenir tout à l'heure après les annonces et où on aura un court temps de sensibilisation par rapport à la persécution dans le monde de façon plus concrète et pratique. Et puis, comme à chaque fois, eh bien, Porte Ouverte propose également que nous ayons un temps de réflexion par rapport à ce sujet et nous propose, comme chaque fois, un texte sur lequel méditer, et je vous propose donc que nous commencions par cela et par lire le texte du jour qui nous est proposé. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ou du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril? Ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce qu'écrit Paul dans son épître aux Romains au chapitre 8. Et ce chapitre 8 de l'épître aux Romains est, dans son ensemble, est un chapitre merveilleux. C'est vrai parce qu'il s'adresse à nous chrétiens et nous adresse des promesses qui sont vraiment fabuleuses. Alors je cite pêle-mêle, « Il n'y a aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. Je suis libre, j'ai été affranchi de la loi, du péché et de la mort. L'Esprit de Dieu habite en moi. Il ressuscitera mon corps mortel. » Je suis fils de Dieu, ayant un esprit d'adoption par lequel je peux crier « Abba, Père ». Je suis héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Et puis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais encore, nous avons été prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Et puis enfin, Dieu et pour nous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, quand je pense à toutes ces affirmations, eh bien, il y a comme une espèce de vertige qui me vient. C'est vrai parce que nous avons du mal à nous représenter, à intégrer toutes ces réalités, ces affirmations, et à les vivre pleinement dans notre quotidien. Réaliser toutes ces choses, c'est vrai, ça nous transforme, ça nous change. Ça nous rend vivants, pleins d'espérance. Mais c'est vrai aussi que très rapidement, eh bien, la confrontation avec ce monde met à l'épreuve notre nouvelle identité en Christ et notre foi. En effet, toujours selon ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, eh bien, nous sommes confrontés à diverses choses que je cite de nouveau pêle-mêle et que j'adapte un petit peu dans le langage d'aujourd'hui. Nous sommes confrontés aux affections de la chair. Certaines pulsions ou certaines tentations nous éprouvent chaque jour et nous poussent à pécher. Nous souffrons, Et nous sommes comme la création qui soupire et qui souffre avec nous les soupirs de l'enfantement. Nous sommes faibles, nous sommes éprouvés. Nous pouvons éprouver de l'angoisse face à un avenir qui nous semble sombre et déprimant. Nous pouvons être confrontés au chômage, à l'exclusion sociale, ou bien encore à la maladie. Nous pouvons connaître des conflits, et certains sont même au milieu de véritables guerres dans ce monde. Nous pouvons être confrontés à l'abus, ou bien encore au harcèlement, que ce soit sur notre lieu de travail, ou bien à l'école, ou bien peut-être même dans nos propres maisons, où nous pouvons connaître des personnes dans un tel cas. Et nous pouvons être persécutés également de bien des manières. Oui, c'est vrai, nous sommes désormais des enfants de Dieu et nous jouissons à ce titre de formidables privilèges. Mais tant que nous serons sur cette terre, bien que chrétiens, nous ne pouvons pas échapper à la souffrance, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes désormais des étrangers, des voyageurs sur cette terre et ses habitants ne nous aiment pas vraiment parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Ce monde déteste Dieu, et nous qui sommes ses enfants, ses serviteurs, eh bien, ils nous détestent tout autant. Et des fois, cette haine s'exprime de la plus féroce des manières dans la persécution, et cette persécution peut même elle-même conduire, parfois, à la mort. Et dans le premier siècle, eh bien, par exemple, les chrétiens déjà étaient exposés à une telle persécution, à une telle haine. Et nombre d'entre eux sont morts en martyrs. Et la Bible nous en présente plusieurs. Par exemple, Jacques, l'un des frères de Jean, a été persécuté. On nous dit en Actes 12, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible. Et elle est fort logiquement aussi dans l'histoire passée et présente de l'Église. Et de nos jours, eh bien encore, dans de nombreuses régions du monde, des chrétiens font face à des menaces et à des exactions semblables. Jérôme est un chrétien qui vit dans un village de personnes déplacées à Osha, dans le Nord Kivu, dans la République démocratique du Congo. Il a dû tout quitter à cause des violences qui sont orchestrées par les forces démocratiques alliées, ADF. C'est un groupe extrémiste qui est lié à l'État islamique. Jérôme nous dit « J'ai fui parce que les membres ADF avaient tué mon fils », il explique. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé et de nombreux civils ont été tués. La moto a brûlé, nous n'avions plus rien. Le pasteur Barnabas, du Nigeria, a été brutalement attaqué par des militants Peul, un groupe d'extrémistes islamiques qui sont responsables de nombreuses attaques violentes dans le centre et dans le nord du Nigeria. Il raconte « J'étais à la ferme avec mon frère Evren et sa femme Friday. Nous avons entendu des coups de feu et nous avons vu des gens courir dans différentes directions. » Nous ne savions pas que c'était les militants qui nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, et d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Evren et Friday n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Cela fait presque 5 ans maintenant, mais la douleur est encore intense pour le pasteur Barnabas. Mon frère a été abattu par les militants, et la femme de mon frère a également été touché, puis tué à la machette, explique Barnabas, qui n'a pas pu s'arrêter. Il n'a pas pu s'arrêter pour empêcher son frère et sa belle-sœur d'être tués, et il n'a même pas pu récupérer leur corps. Non, il a dû fuir, et dans sa fuite, il a été lui-même touché par un grand coup de bâton qui a frappé sa main de telle sorte qu'elle l'a cassé gravement. Alors il a pu rassembler de l'argent pour faire une première opération, mais même cette première opération n'a pas pu enlever un bout de métal qu'il a dans la main et qui l'empêche aujourd'hui d'utiliser sa main d'une manière à 100%. Alors lorsque la souffrance, la persécution s'installe comme ça, lorsque ça arrive soudainement ou bien lorsque ça dure aussi. Et nous pouvons nous-mêmes connaître des situations de notre vie où les épreuves, la souffrance durent. Eh bien, dans ces cas-là, le doute, le découragement, la dépression, peut-être même le désespoir, eh bien, peuvent nous gagner et remettre en question l'amour que Dieu a pour nous, mais aussi l'amour que nous avons pour lui. Quand l'épreuve dure, nous finissons à un moment donné ou à un autre par nous dire que, eh bien oui, Dieu nous a abandonnés, il ne s'intéresse plus à nous. Finalement, il n'est pas si digne de confiance que cela. Et si ces pensées peuvent nous traverser, voire même peut-être vouloir s'enraciner en nous, à combien plus forte raison le sont-elles pour les chrétiens persécutés ? Jérôme dit encore, la faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez bien de perdre votre confiance en Dieu. La foi est affaiblie. Les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous ne pouvez pas l'aider, eh bien, il devient orgueilleux et il cesse d'écouter. Et il ne cesse de voir des jeunes fumer de la marijuana et puis partir pendant des jours entiers sans savoir où ils vont. Et il constate que, eh bien, l'amour de Dieu est d'autant plus absent chez certains jeunes parce que il y a des jeunes filles qui se prostituent et qui ont des grossesses à répétition et qui marquent ainsi leur véritable désespoir. Et le pasteur Paluku, qui est responsable d'église à Oicha, va dans ce même sens. Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Et les personnes qui sont déplacées, eh bien, basent ainsi leur choix sur des puissances obscures qui promettent protection, et cela a un impact direct, négatif, sur leur marche chrétienne. Alors, le véritable défi pour tous les chrétiens, finalement, qu'ils soient de France ou qu'ils soient d'ailleurs, pour vous, pour eux, comme pour moi, et je le sais bien dans la situation, dans les temps dans lesquels je suis, eh bien, c'est qu'il faut saisir les promesses de Dieu par la foi. C'est de croire que Dieu a promis, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Même s'il semble tarder, même s'il semble nous abandonner, même s'il semble silencieux, au milieu de toutes nos souffrances, nos épreuves, nos persécutions, Dieu nous promet sa présence à nos côtés tous les jours et la garantie d'un amour éternel. Et cette promesse, cette réalité doit devenir le rocher sur lequel nous sommes appelés à bâtir nos vies. Ce rocher inébranlable qu'est l'amour de Dieu pour nous doit nous pousser à être fidèles jusqu'au bout, malgré toutes les oppositions intérieures ou extérieures que nous pouvons avoir et à être plus que vainqueurs dans toutes les épreuves que nous pouvons vivre. De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec leur Seigneur dans les moments les plus difficiles de leur vie. Le pasteur Wang Mingdao, qui est sorti de 20 années de géol dans les prisons chinoises, donc, a dit « J'ai vécu une lune de miel avec Jésus ». De la même manière, sachons chercher auprès du Seigneur, dans l'intimité de notre rencontre quotidienne avec lui, l'amour qui nous permet d'avancer chaque jour. On se rappelle ces versets que Jésus dit à ses apôtres « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés peuvent témoigner qu'ils sont heureux, oui, heureux de souffrir pour Christ. C'est une déclaration qui peut sembler paradoxale, oui. Pourtant, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu une sincère joie parce qu'ils souffraient pour leur Seigneur. Par exemple, en Acte 5, il nous est dit qu'après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre explique encore dans sa première épître que si vous êtes insulté à cause du nom du Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Cette réalité, qui est difficilement explicable, c'est vrai, mais lorsque nous prenons position pour Dieu, ou lorsque nous souffrons pour Dieu pour des motifs de conscience, eh bien alors, dans ces cas-là, une joie divine qui dépasse l'entendement peut nous envahir. Une joie dont la douceur et la beauté dépassent l'entendement. N'est-ce pas une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers tous ceux qui souffrent ? Alors soyons nous-mêmes aussi de ces chrétiens courageux et déterminés qui choisissent d'honorer leur Seigneur en toutes circonstances. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Et cette certitude est comme une ancre solide qui ne peut pas nous être arrachée par aucun moyen ni par aucune autre puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. Et la persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme, je dirais à un terme éternel. Il regarde en effet au-delà de la mort et voit par la foi la réalité de l'éternité. Sauré nous dit que dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus, lui, est éternel. La souffrance n'est pas éternelle, mais Jésus est éternel. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur, nous dit Paul. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Sauré et Paul, à prendre de la hauteur et à considérer notre existence éternelle. Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne plus loin que sur cette terre, au-delà du voile de la mort. Peut-être Dieu permet-il une épreuve ou une difficulté dans votre vie, dans notre vie, pour nous amener, nous aussi, à détacher nos regards des choses de ce monde et considérer ce qui importe réellement à ses yeux. Alors nous nous sommes réjouis ensemble de la proximité de Dieu avec ses enfants qui souffrent et de la fidélité avec laquelle, eh bien, il veille sur eux. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité à leur égard. Parce que l'amour de Dieu pour eux passe, eh bien, aussi par notre témoignage concret, par l'amour de leurs frères et sœurs manifesté au travers du corps de Christ. L'amour fraternel est un des moyens au travers duquel l'amour de Dieu se révèle. Et cet amour, eh bien, il se manifeste de manière concrète. Et lorsque Jésus évoque le jugement dernier, eh bien, il explique comment les hommes seront séparés en deux catégories. Et il dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Ces actions, elles sont très concrètes et elles consistent à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vulnérables, et c'est la véritable manifestation de l'amour de Dieu en nous pour eux. Jésus est tellement proche de ses enfants qu'il s'identifie à eux. Le bien que nous leur faisons, nous le faisons à Christ. Quel honneur et quelle responsabilité aussi à la fois. Ici, l'Évangile devient tangible. Ici, notre foi devient acte, elle prend forme visible et touche le corps et le cœur de nos frères et sœurs persécutés. Et l'association Porte Ouverte, dont nous reparlerons tout à l'heure, eh bien justement a pour précision de répondre à la faim et à la soif des chrétiens persécutés, de les habiller, de les visiter et d'aller vers eux dans les camps de déplacés ou dans les prisons. Et puis de leur apporter un accompagnement spirituel aussi, bien évidemment. Alors, en conclusion, soyons l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. L'amour de Dieu, nous l'avons vu, n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés, de même qu'il ne nous abandonne jamais non plus. Allons trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueur par sa présence aimante. Allons trouver en lui les promesses et l'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous responsabilise ainsi sur ce qui advient à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre affection et de nos marques concrètes d'amour et d'aide dans leurs difficultés quotidiennes. Par exemple, avec une défense légale et avec un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, ou par des aides d'urgence alimentaire et médicale, par des soins post-traumatiques, par la fourniture de Bibles et de littérature chrétienne, etc. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, et rien ne les séparera non plus de notre amour. Amen.